Nous renouons aujourd'hui le fil interrompu des débats d'histoire du Collège de France, qui, comme vous le savez, est organisé sous la forme d'une série de conversations, d'échanges à propos de livres qui ont été récemment publiés et qui proposent des thèmes originaux ou des interprétations neuves. Et je crois qu'il n'y avait pas de meilleur hôte pour reprendre cette série que Serge Grusinski, qui vient de publier chez Fayard un nouveau livre intitulé « La machine à remonter le temps, quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde ». Dans cet ouvrage, Serge Grusinski veut comprendre et veut faire comprendre comment s'est opéré ce qu'il appelle la globalisation de l'histoire, entendu dans cette expression comme la mise en histoire du monde par les chroniqueurs et les historiens européens. Et dans ce livre, il défend une hypothèse fondamentale, à savoir, et je le cite, que c'est au XVIe siècle, et plus précisément dans l'Amérique des Ibériques, que surgit ce qui deviendra le tremplin de la conscience historique européenne. C'est cette hypothèse qui nous servira de fil conducteur, qui est la charpente du livre, et qui organise aussi les interrogations posées par le livre. Par exemple, comment les chroniqueurs et les missionnaires espagnols ont-ils pu écrire l'histoire d'un peuple ou de peuples, d'un territoire ou d'empire dont ils ignoraient l'existence avant 1492. Ou bien que ces peuples américains ont-ils écrit, avant ou après la conquête, leur propre histoire. Ou encore, et finalement, comment l'écriture de l'histoire à la manière européenne a-t-elle capturé, a-t-elle colonisé les mémoires indiennes ? Avec ces questions nouvelles, ceux qui sont des lecteurs de Serge Grusinski ont reconnu aussi la trame de tout ce qui a fait son œuvre depuis plus de 30 ans. Une œuvre faite de recherche et de réflexion. Je n'en rappelle que quelques livres que nous rencontrerons sûrement implicitement ou explicitement au cours de cette conversation. La colonisation de l'imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol, un livre de 1988, La guerre des images, 90, La pensée métisse, 99, ou L'aigle et le dragon, démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle, paru en 2012. Il faudrait mentionner beaucoup d'autres titres, comme L'aigle et la sibylle, L'histoire du Nouveau Monde, qu'il avait rédigé en collaboration avec Carmen Bernand, ou L'histoire de Mexico, et j'en oublie peut-être, reviendront-ils dans notre conversation. Alors, Serge Grusinski, le propos du livre, je l'ai compris comme étant, en quelque sorte, l'effort pour tracer une généalogie de ce que vous appelez, à la fin du livre, l'hégémonie européenne en manière de construction du passé, à la fois pour les Européens et pour ceux qui ne le sont pas, et cette généalogie ayant une vertu critique, qui est celle de mettre en question l'histoire telle qu'elle s'écrit ou s'enseigne aujourd'hui, ce qui était le thème d'un des livres les plus récents que vous aviez, publié, « L'histoire, pourquoi faire ?». Alors, est-ce que c'est bien cela, une généalogie à vertu critique ?
Oui, c'est cela sur le plan académique et sur le plan professionnel, disons. Mais c'est aussi parce que j'arrive en fin de parcours, une réflexion sur mon propre métier d'historien. Je continue à me demander pourquoi, depuis 1973, je m'intéresse aux Indiens du Mexique et pourquoi, inlassablement, je reviens là-dessus. Donc, c'est une question que je me fais à moi-même. À travers ça, c'est aussi une question sur mon propre métier d'historien, puisque je suis confronté depuis cette époque-là à ces sociétés amérindiennes et donc continuellement les outils que j'ai assimilés, que j'ai appris, qu'on m'a enseigné sont face à ce matériau. Et donc le livre est peut-être d'abord une question que je me fais à moi-même sur la raison de ce parcours, de cette insistance, sur les résistances aussi que je rencontre. Alors bien sûr, et il s'agit de revenir sur ces généalogies de cette histoire, et une généalogie pour moi qui est une généalogie souvent mise entre parenthèses ou oubliée, puisque quand on parle de notre histoire à nous, généralement on insiste sur deux grands événements, la révolution historiographique en Italie, XVe, XVIe siècle, et puis la Révolution française aussi du XVIe siècle, autour de Bodin et d'autres historiens. Et on oublie qu'il s'est aussi passé à l'époque autre chose, c'est-à-dire la rencontre, l'affrontement entre une façon de penser européenne et ces nouveaux mondes. Je dis nouveaux mondes parce que le livre porte sur le Mexique. Il porte sur l'Amérique espagnole, mais il ne faut pas oublier qu'à la même époque, et même un peu avant, les Portugais sont face à l'Afrique et se mettent aussi à écrire l'histoire de l'Afrique, et que pendant que les Espagnols s'occupent du Mexique, du Pérou ou de la Floride, les Portugais sont face à l'Inde du Grand Mogol, à la Chine, à la Perse. Donc il y a quelque chose pour moi, est un petit peu un équivalent planétaire du choc qu'on observe en Europe. En Europe, on a ce choc entre tradition catholique de l'histoire face à cette tradition protestante. Et ça, c'est au milieu des affrontements des guerres de religion. Quand on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que cette façon d'écrire l'histoire européenne rencontre... Alors, moi, je me suis intéressé au monde amérindien, au monde mexicain, mais elle rencontre d'autres manières d'écrire l'histoire sur toute la planète. C'est pour ça que le XVIe siècle, pour moi, est aussi important, pas simplement à cause de ce qui se passe au Mexique.
Mais vous commencez tout de même, pas tout de même, mais dans une distinction, puisque ce qui fait l'originalité de cette histoire que veulent, on va voir pourquoi, écrire les chroniqueurs et les missionnaires dans le monde américain, elle a cette caractéristique de, je vous cite, « partir de rien ». Alors que pour l'autre partie du monde que vous évoquez, par exemple ces mondes orientaux, ceux qui s'attaquent à cette histoire, évidemment le font d'une manière nouvelle à cause de la désenclavement du monde, comme aurait dit Pierre Chaudu, mais ils ne parlent pas de rien. Il y a des traces, des récits de voyageurs antérieurs. C'est un monde qui, s'il n'était pas complètement connu historiquement, n'était pas un inconnu. Vous, le défi que rencontrent les chroniqueurs espagnols et portugais, et puis ensuite on va le voir avec une importance particulière les missionnaires envoyés dans le Nouveau Monde, c'est ils partent de rien. Alors comment on peut écrire l'histoire quand on part de rien ? Pas même la connaissance de ce territoire et de ces peuples dont il faut écrire l'histoire si rapidement après la découverte, alors qu'il n'y a rien dans la tradition occidentale qui apporte des matériaux.
Alors pour moi, évidemment, c'était une question d'abord à moi-même sur le métier d'historien. Comment fait-on de l'histoire, comment écrit-on de l'histoire sans bibliothèque, sans articles, sans bibliographie, sans tradition à détruire ou à défendre? Il faut d'abord se dire que le projet à l'origine n'est pas un projet d'écrire l'histoire. Le projet est un projet colonial. Et on retrouvera ça dans l'Inde britannique au XVIIIe siècle. C'est un projet qui vient du monde des juges et des administrateurs. Il s'agit d'implanter un système colonial, donc d'avoir des informations sur les sociétés, sur la fiscalité, sur les rapports sociaux, sur les hiérarchies. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'ouvre une deuxième étape, c'est-à-dire on fait appel aux missionnaires, pas parce que ce sont des religieux, mais parce que ce sont des gens qui connaissent, qui ont appris, qui ont commencé à apprendre les langues indiennes, comme des experts. Et donc cette deuxième phase implique cette population de moines qui est là, elle aussi, non pas pour écrire l'histoire, mais pour évangéliser et pour consolider le régime colonial. Et donc, ce sont, dans un deuxième temps, ce sont eux qui vont répondre à ces demandes de l'administration. Ils se rendent très vite compte que pour répondre à toutes ces questions, il faut s'interroger sur les origines des Indiens. Il faut récupérer leur mémoire et il faut faire un tri considérable entre ce qu'on juge recyclable dans le monde colonial et ce qu'il vaut mieux éliminer. Et ce qui m'avait frappé, c'est que cette aventure qui commence au Mexique dans les années 1530 va se reproduire pratiquement à l'identique autour de 1760-1770 dans l'Inde qui n'est pas encore l'Empire britannique mais qui est en train d'être pénétrée par les Anglais. C'est-à-dire qu'on va avoir l'administration, la demande des juges, la curiosité, l'impératif colonial, et puis là, des missionnaires, cette fois-là, ce seront des missionnaires protestants, pas catholiques, qui vont, par leur connaissance des langues indiennes, apporter les matériaux. Et c'est là aussi, en Inde, comme au Mexique, qu'on va nouer ce rapport avec les élites locales, puisqu'il n'y a pas d'écriture de l'histoire sans rapport avec ces représentants des sociétés indigènes qu'on va former dans des collèges à Bombay, à Madras, à Calcutta, comme on les a formés des siècles plus tôt à Mexico, au collège de Tlatelolco.
Dans la première partie du livre qui est consacrée à cette question que vous venez d'énoncer, il y a une œuvre particulièrement analysée, évoquée, convoquée, qui est l'écrit de Motolinia, si j'ai bien compris, ça signifie le petit pauvre dans la langue nahuatl, qui était un frère franciscain, Fray Toribio de Benavente, parfois il s'appelle Paredes aussi, il y a une incertitude sur son nom. Et l'intérêt de ce livre, que l'on connaît maintenant et dans des éditions même récentes, l'une de l'Académie royale espagnole, comme l'histoire des Indiens de la Nouvelle-Espagne, dans les trois manuscrits qui en ont survécu du XVIe siècle, dans le titre apparaît toujours « Rite, sacrifice et idolâtrie ». Alors, est-ce que, même si, comme vous le dites, les missionnaires sont enrôlés dans ce projet colonial de type administratif, lui, l'histoire des peuples indiens, il l'aperçoit dans une autre perspective, qui est effectivement de savoir ce qu'était l'idolâtrie pour pouvoir l'extirper. Et ce qui entraîne une attention qui, alors que dans le cadre d'administration, doit se porter, comme vous l'avez très justement dit, sur comment étaient les tribus, quels sont les lignages aristocratiques, comment la société fonctionnait, l'esclavage dans ces sociétés, ça crée à la fois une collaboration, mais aussi peut-être deux perspectives un peu différentes sur la raison d'écrire cette histoire, du moins bon, de décrire ce passé. On peut discuter. Ces deux formes qui sont très présentes dans la première partie du livre, vous les voyez plutôt comme une coalition, une conciliation, ou plutôt comme poursuivant finalement des objectifs noués, mais différents?
La réponse est dans la forme d'histoire que pouvaient avoir ces missionnaires ou ce franciscain comme Motolinia. Et là, je dois dire que j'ai beaucoup appris, parce que quand nous pensons histoire au XVIe siècle, on pense Guicciardini, on pense Machiavel, et pour le XVe, Leonardo Bruni, on pense à des historiens allemands ou des historiens français. Or, l'histoire pour ce franciscain Motolinia, c'est avant tout l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. C'est-à-dire que écrire l'histoire, c'est faire monter ces populations indiennes sur le bateau de la rédemption et du salut. C'est les intégrer dans une histoire du salut. Et là, évidemment, on est dans un registre qui n'a plus rien à voir avec les curiosités de l'administration et les impératifs de la colonisation. Ou bien on est dans une forme de colonisation spirituelle. La forme d'histoire avec laquelle débarque ce moine, évidemment, c'est une histoire universelle. Et c'est une histoire, historia salutis, c'est une histoire du salut. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais presque, au risque de l'anachronisme, j'ai toujours l'impression que c'est un véritable historicisme. C'est-à-dire que c'est l'histoire du salut qui explique les sociétés, qui explique le passé, le présent, l'avenir. Et c'est là, justement, où on va voir apparaître des outils qui sont très surprenants pour nous, parce que ce sont des outils formés au moment des Pères de l'Église, au début de la christianisation de l'Empire romain, et qui sont finalement qui vont servir à faire rentrer ces nouvelles civilisations, ces nouvelles populations dans un récit global qui est le récit biblique du salut de l'humanité. C'est l'histoire ecclésiastique qui permet de penser les hommes comme un tout, comme une humanité. Et qui en plus, et ça c'est fondamental, et on retrouvera ça peut-être uniquement avec le marxisme, qui donne un sens à l'existence. C'est-à-dire que l'existence des hommes, elle doit être tendue vers le salut, vers le jugement dernier. Il y a une création, mais il y a aussi une fin. Et donc, quand Motolinia se met à écrire l'histoire des Indiens, ça m'avait beaucoup frappé, c'est pas simplement une histoire de passé, une histoire de mémoire, c'est aussi comment décrire le présent. Et comment décrire l'avenir?
Oui, parce qu'alors on a l'impression que la méthode pour penser cette histoire, qui a ses racines dans la grande tradition de l'histoire ecclésiastique, qui elle-même est articulée sur le récit biblique, comme vous venez de le dire, c'est une forme de ce qu'on appelait pour la lecture de la Bible une lecture typologique. C'est-à-dire on compare systématiquement un passage de l'Ancien Testament avec ce qu'il préfigure et devient dans le Nouveau Testament. Et vous montrez que cette technique, qui était sans doute la lecture de la Bible héritée de cette longue tradition chrétienne, elle devient une technique de savoir ou de description historique, puisque confrontée à l'effondrement de l'Empire mexicain, confrontée aux multiples raisons de la destruction des populations indiennes, notre petit pauvre Motolinéa emploie cette technique et systématiquement donne comme grille d'interprétation des événements bibliques. Alors, est-ce que, à votre avis, c'est une sorte d'application à un matériau qui est le matériau du présent, comme vous venez de le dire, destruction d'une culture indienne, ou même récit de la colonisation, de l'évangélisation, pardon, toujours pensé dans un modèle biblique. Est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement c'est une histoire typologique au sens qu'on employait dans la critique biblique ?
Parfaitement. Mais ça aussi parce que Motolinéa et ceux qui vont le suivre ne sont pas du tout des historiens de formation. De toute façon, il n'y a pas de profession d'historien à l'époque. Mais ce ne sont pas non plus des gens qui ont été préparés à écrire l'histoire ou qui ont réfléchi là-dessus. Donc le modèle qui existe, le livre d'histoire pour eux, c'est la Bible. Et donc c'est à travers la Bible que... ils essaient de donner un sens, de mettre en ordre les matériaux qu'ils reçoivent de ces élites indigènes, mais aussi, pour eux, c'est la manière de résoudre cette question scandaleuse, c'est-à-dire pourquoi ces populations d'Amérique ont échappé à la christianisation. Comment expliquer cette espèce de trou, de vide dans l'histoire du monde ? Et donc, le rapprochement, l'utilisation de modèles bibliques, c'est aussi une façon de les rattacher systématiquement à l'histoire de l'humanité et de leur donner aussi une dignité. Ce sont pas des... Il y a un moment où Motolinéa réfléchit sur le premier roi souverain aztèque qui est Acamapichtli. Il va chercher dans l'Ancien Testament un souverain qui s'appelle Joas et qui a eu un parcours un peu comparable. C'était donner une dignité à cette histoire indienne qui en faisait finalement une espèce de réplique de l'histoire biblique. Et ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une espèce d'homogénéisation du temps du monde, où ces histoires des Indiens ne sont plus du tout des événements exotiques, mais ce sont des moments qui peuvent se rattacher à des modèles familiers. Maintenant, il faut bien toujours avoir en tête le fait que pour Motolinéa, c'est sa seule façon à lui de penser cette réalité. Les plaies d'Égypte, par exemple, qu'il utilise et qu'il exploite à fond pour expliquer les plaies du Mexique, c'est-à-dire les conséquences de la conquête et le châtiment aussi des idolâtries indigènes, c'est l'outil qu'il a en main. Ce qui nous surprend, c'est que pour un historien comme moi, l'histoire au XVIe siècle, ce n'est pas l'histoire ecclésiastique, je veux dire. Nous sommes aussi prisonniers d'une généalogie qui a favorisé des modèles beaucoup plus sécularisés d'histoire. Je pense à un illustre italien comme Francesco Guicciardini, qui fait de l'histoire politique, diplomatique, mais qui ne fait très peu intervenir la divine providence et qui a des formes d'histoire qui étaient encore dominantes jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à ce qu'arrive notre fameuse école des annales. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Et quelqu'un d'ailleurs récemment, comme Anthony Grafton, a rappelé que l'histoire ecclésiastique était beaucoup plus importante qu'on l'imaginait, puisque en fait... elle domine le XVIe siècle pour la simple raison que les protestants font de l'histoire ecclésiastique pour démontrer la décrépitude de l'Église romaine et que Baronius et les catholiques en face font aussi de l'histoire ecclésiastique pour montrer les erreurs des protestants. Donc on est aussi nous-mêmes, et c'est un petit peu la leçon que moi j'ai appris en tant qu'historien, on a une vision du XVIe siècle, des historiens du XVIe siècle qui est très déformée suite aux choix qui ont été faits au XIXe siècle de certains historiens et suite aussi au rejet et à la difficulté que nous avons aujourd'hui à traiter le religieux et l'histoire ecclésiastique comme quelque chose de parfaitement archaïque, dépassé, alors que cet instrument archaïque et dépassé a permis à ces moines d'écrire l'histoire de ces Indiens. Et cette histoire, l'histoire de ces Indiens, c'est l'histoire qu'on utilise encore aujourd'hui, sur laquelle toute la bibliographie du Mexique et du Pérou est construite.
Mais vous montrez qu'il y a deux grandes difficultés à cette utilisation de ce modèle de l'histoire ecclésiastique et donc du récit biblique lorsque l'on se confronte à des peuples et des territoires inconnus et qui étaient restés en dehors de cette manière de comprendre. La première difficulté, c'est celle d'accorder les chronologies. Et la deuxième, que vous mentionniez déjà, c'est celle de réfléchir sur l'origine de ces peuples qui n'entrent pas dans le récit biblique, mais qu'il faut pourtant installer dans l'histoire universelle du salut. Alors, comment les missionnaires, Motolinia, mais aussi d'autres que vous étudiez, et puis des chroniqueurs espagnols ou portugais, dont certains ont voyagé aux Indes, dont d'autres sont restés dans leur cabinet d'études. Comment ils affrontent ces deux difficultés? Ils perçoivent des chronologies qui sont différentes de la nôtre, si j'ose dire, en tant que monde d'Occident. Et puis, d'autre part, quelles sont les hypothèses sur les origines des Indiens qui permettent, plus que d'autres, de les rattacher à cette histoire universelle?
Et de les rattacher en particulier à l'Antiquité. Puisque si nous revenons dans un cadre classique d'histoire du XVIe siècle, bon, la grande découverte du XVe siècle italien, c'est l'existence de l'Antiquité, d'une période qui serait séparée du monde contemporain par les ténèbres du Moyen-Âge. Et donc, la construction historique se construit à partir d'un tête-à-tête ou d'un face-à-face avec cette Antiquité. Les hypothèses qu'on fait en Amérique ou qu'on fait en Europe sur l'origine des Indiens. Alors, première hypothèse qui les rattache directement à la Bible, ce sont des tribus d'Israël perdues. Et donc, on a enfin retrouvé ces tribus. Et tous les observateurs s'accordent sur l'idée que ces populations indigènes partent d'une forme de monothéisme. Le monothéisme n'est pas un aboutissement, mais un point de départ, qui ensuite est dégradé dans des formes d'idolâtrie. Deuxième, une autre hypothèse, ce sont les voyages à travers l'Atlantique, des Carthaginois, c'est l'Atlantide. Et il est extrêmement intéressant, non pas pour comprendre l'origine des Indiens, mais pour comprendre le fonctionnement de cette pensée européenne, de voir pendant tout le XVIe siècle, continuellement, des hypothèses avancer, comme s'il fallait à tout prix pour nous, Européens, que ces autres peuples aient des origines. Comme si nous avions besoin de savoir d'où venaient ces populations. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intriguant et d'extrêmement intéressant. Et c'est là où on retrouve ce besoin de faire l'histoire des autres, qui est tout de même une caractéristique proprement européenne et qui restera une caractéristique proprement européenne.
L'hypothèse des descendants de Noé, qui sont une possibilité. Mais alors, vous évoquez aussi le moment où on va basculer à l'idée que dans ces peuples primitifs, on n'est plus dans ce registre-là d'une humanité qui serait diverse, mais avec des traits d'identité. Mais on est avec l'hypothèse des géants, on bascule dans quelque chose d'autre. C'est peut-être une autre trace d'un vieil imaginaire médiéval.
Et biblique, puisque les géants sont aussi dans la Bible. Et on est toujours dans ces modèles qui nous, historiens contemporains, nous déconcertent beaucoup, puisque ce monde biblique était très présent, et pas seulement chez les historiens ou les chroniqueurs. Et cette idée qu'on a après perdu de vue au XVIIIe siècle, c'est que tous les hommes viennent de la même origine. Ce qui suppose, et ça c'est extrêmement important, que tous les hommes doivent être traités sur le même plan. C'est l'origine. Alors, j'ai évoqué dans le livre un personnage extraordinaire de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, qui est Annius de Viterbe, qui lui, non seulement a republié des textes anciens, mais a créé des textes, créé des généalogies et développé une histoire globale du monde qui rattache à Noé toutes les civilisations, y compris celle des Étrusques, et qui joue aussi sur sur une vision extrêmement critique des mondes grecs et romains pour revendiquer l'existence d'autres civilisations tout aussi prestigieuses, tout aussi importantes, les Chaldéens, les Étrusques dont je viens de parler, les Égyptiens. Et ça, Las Casas va s'en servir plus tard, le Dominicain, parce que, pour montrer que cette antiquité qui est cultivée en Italie, qui est fondamentalement gréco-romaine, elle est plurielle. Et qu'après tout, s'il y a des antiquités plurielles, il peut aussi y avoir une antiquité amérindienne. Tout ça fait partie de cette cuisine extrêmement complexe qui se fabrique durant tout le XVIe siècle, et pas seulement en Espagne, au Portugal, mais aussi dans le reste de l'Europe.
Alors pour conclure cette première approche, il y a deux mots dans votre texte qui sont importants, parce que c'est les mots du temps. L'un que l'on vient de voir, sans le nommer, concordancia, donc les concordances, les jeux d'écho, les comparaisons, cette lecture d'analogique, finalement, peut-être avec sa matrice biblique et employée pour la compréhension du présent, qui ne peut être compris que si on le réfère à une réalité déjà là, antérieure. Et l'autre mot, c'est inquisition, et dans le sens non seulement de la vraie inquisition, mais aussi dans le sens de l'enquête, de la recherche, et c'est pour ça peut-être que ce serait une transition sur notre second thème, ces missionnaires, leur information, comme vous l'avez dit, c'est pas une bibliothèque, il n'y a rien, il n'y a pas de bibliothèque américaine, et dans leur propre bibliothèque, il n'y a rien directement sur le Nouveau Monde. Et donc les deux sources d'information, c'est la parole vive, et c'est les codex, les livres, dans ce sens élargi, que les Indiens ont peint. Et donc, du coup, comment s'articule cette relation entre recueillir des mémoires à travers la parole et, d'autre part, d'utiliser dans une lecture historique les documents de nature écrite, entre guillemets, peut-être puisqu'il n'y reconnaissait pas des écritures qui leur étaient familières, dans ce projet de recherche. Et vous montrez bien que le mot Inquisition que Borges va reprendre dans deux de ses livres a cette ambivalence, puisque bien sûr elle réfère à une forme particulièrement rude de l'évangélisation, et de l'autre côté elle définit un projet de recherche.
Alors, peut-être pour moi, enfin, en tout cas dans ce livre, c'est l'aspect qui m'a le plus passionné, c'est ce qui se passe entre ces moines et ces Indiens. Alors, ces Indiens, attention, ce ne sont pas des Indiens du peuple, ce sont des membres de l'aristocratie. Ce sont des gens que les moines côtoient quotidiennement, qu'ils connaissent dans la longue durée. Souvent, ce sont des... Dans les années 20, ce sont des enfants qu'ils ont baptisés et puis qui deviennent 10 ou 15 ans plus tard leurs informateurs. Et là, c'est très difficile à percevoir dans les archives, ce rapport de complicité ou d'amitié, ce paternalisme, cette proximité physique, puisque quand on est dans un village indien et qu'on est un moine espagnol plus ou moins cultivé, ben on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs, sauf ces membres de l'aristocratie indienne qui ont appris un peu de latin et qui connaissent un peu d'espagnol. Donc tout se passe entre eux dans ce face-à-face, puisque même les codex qu'on montre aux moines sont forcément interprétés par ses interlocuteurs. Et vous avez utilisé le mot inquisition. Je pense que c'est, pour moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est plutôt une trilogie, c'est confession, inquisition, information. Alors on les appelle des informantes, ce sont des informateurs. Sauf qu'on leur demande de parler de ce qu'on veut extirper et détruire, c'est-à-dire en grande partie les rites et les idolâtries. On leur demande d'être le plus sincère possible. Mais s'ils sont trop passionnés ou peut-être trop intéressés, peut-être que l'échange deviendra un échange d'inquisition, c'est-à-dire que l'échange deviendra suspect. Donc, inquisition, information, confession, oui, dites toute la vérité, allez jusqu'au fond des choses. Et en même temps, ce sont les choses que vous devez oublier. C'est une situation extrêmement compliquée et totalement neuve. Alors, il faut aussi se rappeler qu'elle se passe, dans le cas des Indiens que j'ai regardé de près, en nahuatl, c'est-à-dire pas en espagnol. Donc, elle ne se passe pas dans une langue européenne. Et ça aussi, c'est une situation totalement nouvelle. Et vous avez évoqué les codex qui sont ces manuscrits peints. Les pièces qu'on utilise, les documents qu'on utilise ne sont pas des documents écrits, ce ne sont pas des manuscrits. Et parfois aussi, on utilise les restes archéologiques. C'est-à-dire qu'il y a une dimension que moi j'ai découverte en écrivant ce livre. Il y a toute une tradition de ce qu'on appelle les antiquaires, depuis Varron, depuis l'Antiquité, de gens qui ne sont pas des historiens, mais qui décrivent les rites, qui décrivent les sacrifices, qui les pratiques religieuses, les coutumes, les pratiques sexuelles, les coutumes alimentaires, les monuments. Et donc, ces moines qui n'ont pas de raison de se plier à un modèle d'écriture de l'histoire ou à une forme d'histoire particulière sont aussi des gens qui doivent sans arrêt recourir à ce qui s'est développé beaucoup dans l'Italie du XVe siècle, c'est-à-dire la description de ce qu'on voit, la description de ce qui deviendra bien plus tard l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle ou l'ethno-histoire. Donc il y a tous ces éléments qui sont en jeu avec, et ça on ne peut jamais l'oublier, on est dans une situation coloniale, c'est-à-dire que les moines occupent une position apparemment dominante et en même temps, sans la voix, sans la parole vive, pour reprendre votre expression, des Indiens, ils ne peuvent strictement rien écrire. Ce qui crée évidemment, c'est pour moi, une situation tout à fait passionnante puisque ces rapports sont susceptibles continuellement d'évoluer en fonction du rapport de force, des circonstances, même des rapports de complicité, d'amitié. On peut souvent imaginer qu'à certains moments, c'est le moine lui-même qui conseille à l'Indien de ne pas trop en dire pour ne pas créer de problème, pour ne pas attirer trop l'attention. Parce que ces gens étaient dans une relation d'interdépendance et avaient besoin. Les moines avaient besoin de ces élites indigènes. Les élites indigènes avaient besoin des moines face à l'administration espagnole.
Du coup, c'est là, évidemment, l'ouverture sur la deuxième grande question du livre, qui est la question de savoir s'il y a une écriture de l'histoire par les Indiens antérieurement à la conquête ou dans le contexte de la colonisation, mais surtout dans un rapport qui existerait entre des commanditaires de cette élite aristocratique indienne et les peintres des codex. Et c'est une partie passionnante puisque c'est un problème d'une complexité immense. On verra peut-être théoriquement pourquoi. Et que vous travaillez à partir d'analyses de codex, particulièrement de trois codex Texcoco qui sont à la Bibliothèque nationale, peints dans la décennie 1540 par des peintres indiens, sans doute à la demande d'un commanditaire indien, mais de l'aristocratie. Donc, dans ce dialogue que vous venez de mentionner, de ce dialogue entre amitié et inquiétude avec les administrateurs et les missionnaires chrétiens. Et donc, du coup, là, on entre dans une partie extrêmement complexe de la réflexion et du travail, parce que, à commencer, le statut de ce que sont ces pinturas, ces codex, qui ne sont pas écrits dans une écriture que peuvent connaître les missionnaires ou les administrateurs, savoir ce qu'est leur statut est déjà un objet de contention, un objet de différence, puisque vous montrez que pour les Espagnols, ils peuvent être à la fois une source d'information et en même temps ce qu'il faut détruire, puisqu'ils sont les livres de l'idolâtrie. Et peut-être, de l'autre côté, pour les Indiens, ils ont un tout autre statut qui n'est pas détaché du sacré, mais qui pour autant n'est pas réductible au sacré. Alors est-ce que ça, c'est évidemment déjà un point de départ fondamental de l'ambiguïté, de l'ambivalence, de l'apparente compréhension réciproque dans une profonde différence.
Alors, c'est un des grands problèmes auxquels je me suis heurté, en sachant bien que la question ne se pose pas de la même façon au fil des décennies. C'est-à-dire que quand Motolinia commence son enquête, il est face à des gens, à des élites indiennes qui ont été entièrement élevées à l'époque préhispanique, qui ont vécu à l'époque préhispanique. Je dis pour un peu marquer les esprits, il est face à des gens qui sont des cannibales, qui ont vécu dans l'anthropophagie, ont pratiqué le sacrifice humain. Quand on s'avancera dans le XVIe siècle, on est face à des générations indigènes qui ont été élevées dans des écoles chrétiennes, qui ont fait du latin, qui se sont frottées à l'aristotélisme. Et donc les conditions changent. Et ça, souvent, mes collègues ne l'ont pas vu. C'est-à-dire qu'écrire l'histoire dans les années 40, c'est plus du tout, ça n'a rien à voir avec écrire l'histoire dans les années 1570. Alors, la question que vous posez, évidemment, elle est là, massive, énorme, dans les années, fin des années 1530, 1540. Puisque le point de départ de tous ces travaux et le seul point de vue que nous pouvons avoir, nous historiens, nous vient évidemment des Espagnols filtrés par l'écriture. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens, et c'est pour ça que parfois j'ai fait des excursions dans le monde chinois, n'ont pas une tradition écrite indienne comparable à la tradition chinoise. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas toucher l'autre monde, le monde indien, nous parvient toujours filtré. Et donc, il est très difficile d'arriver à l'atteindre. Première difficulté, c'est qu'un moine comme Motolinia est persuadé que les Indiens partagent sa conception du livre, de l'histoire, du temps, de l'espace. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les rhétoriques de l'altérité, il n'y a pas la perception d'un abîme insondable et d'une intraduisibilité, pour reprendre le terme. Au contraire, pour eux, bah oui, les Indiens ont des historiens, des livres d'histoire. Alors, il y a des livres, évidemment, qui sont à éliminer parce qu'ils sont remplis d'idolâtrie, mais dans les autres, on trouve le matériau dont, justement, on a besoin. Et je pense que ça, c'est une des premières sources de malentendus. Parce qu'ils posent des questions aux Indiens et que les Indiens sont censés pouvoir comprendre immédiatement. C'est-à-dire, simplement le mot d'histoire ou même une distinction entre passé, présent, futur. Et surtout, l'idée qui est évidente pour ces moines, c'est que le temps, c'est une flèche orientée, c'est-à-dire qu'il y a une création, il y a une fin du monde, le temps est irréversible, et en plus, il y a une métaphysique du temps. Et c'est là où les moines sont très différents de nous, c'est-à-dire que derrière ce temps humain, il y a un temps de l'éternité. Ces a priori sont, pour les moines, censés être partagés par ces Indiens. Et les moines, comme on vient de le voir par l'exemple de Eusèbe de Césarée, de l'histoire ecclésiastique, à chaque fois qu'ils reçoivent des matériaux qui sortent de la bouche de ces Indiens, évidemment, les organisent en fonction de ces schémas. Donc il n'y a pas la conscience de cet abîme. Ce sera plus tard, avec quelqu'un comme Bernardino de Sahagún, qui est un autre missionnaire franciscain, dira à un certain moment, mais ces gens-là sont monstrueux, ils prétendent que les choses ont été et vont être à nouveau. C'est une espèce d'éclair de lucidité qu'à un certain moment Sahagún, dans son histoire générale des Indiens de la Nouvelle-Espagne, pour le reste des franciscains, il n'y a pas de différence. Et c'est une façon aussi pour eux, et c'est là une nouvelle ambiguïté, de défendre les Indiens. Les Indiens sont des gens comme nous, ils n'ont pas à être exploités. Ce sont des gens aussi respectables, aussi civilisés que nous. Ce ne sont pas des barbares. Ils ont des historiens, ils ont des livres. Et quand on sait au XVIe siècle l'importance, et même pour nous aujourd'hui, du lien entre l'histoire et le livre, puisque c'est tout de même une des grandes caractéristiques pour moi de l'histoire, c'est qu'elle se traduit par des articles, par des livres. Le fait d'attribuer des livres aux Indiens, c'est leur donner un brevet d'historien et un brevet de civilisation. Et de cela, les franciscains ne vont jamais démordre, quitte à nier la différence qui existe et qu'on peut peut-être aujourd'hui plus facilement reconstituer entre ce que c'est qu'un codex et ce que c'est un livre.
Mais vous dites aussi que peut-être d'emblée, dans cette première rencontre, d'un côté, puisque la question est ouverte de savoir s'il subsiste ne fût-ce qu'un seul codex préhispanique, totalement autochtone. Alors j'ai lu récemment qu'il y a des débats, puisque les datations sont extrêmement difficiles. Donc même à supposer qu'il en existe, ils sont d'une rareté extrême, puisqu'il y a une opération de destruction plus que massive, qui est quasi totale, sous la volonté soit de clergés séculiers, soit des administrateurs. Et donc, du coup, ça traduit que, peut-être pas pour les missionnaires dont vous parlez, mais sûrement d'une manière plus générale, le codex, c'est un instrument du culte idolâtrique. Et donc, la destruction doit en être automatique, ce qui fait le paradoxe que vous avez mentionné entre le fait que c'est une de seules sources et pourtant c'est celle qu'il faut détruire. Donc, c'est une contradiction profonde d'emblée. Et d'autre part, vous dites que peut-être pour ces aristocrates des élites indiennes, ce codex avait le statut, vous employez le mot, de lieu de mémoire. C'est-à-dire pas forcément une histoire, bien sûr, sur le modèle occidental de l'histoire, mais quelque chose qui avait à voir avec non seulement le rapport au sacré, mais peut-être la revendication d'une légitimité politique, peut-être aussi quelque chose qui pouvait être marqué un territoire, une ancienneté d'occupation. Alors je suppose que dans cette distinction, comme vous l'avez très justement dit, la chronologie importe beaucoup. Mais est-ce qu'on peut garder cette idée que pour les Espagnols, ou presque tous, les codex ou codices, disons les codex, sont quelque chose, sont un objet d'une sacralité à réprouver, donc à détruire systématiquement, ce qui fut. Et pour les Indiens, et en particulier ceux qui commanditent aux peintres ces codex, inclusivement après la conquête, il y a ce statut plus politique, culturel, lignager du lieu de mémoire.
Je dirais que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. D'abord, beaucoup de destructions sont du fait des Indiens eux-mêmes. Quand les Indiens, une affaire exceptionnelle, mais qui a beaucoup fait couler d'encre, qui a été le bûcher du Don Carlos, le cacique de Texcoco, qui, beaucoup plus pour des raisons politiques que religieuses, a été éliminé par sa propre famille et puis par l'Inquisition mexicaine. Or, à l'époque, les élites indiennes, qui avaient conservé énormément de manuscrits, se sont rendues compte que ces manuscrits pouvaient éventuellement leur coûter très cher. Donc, il y a eu énormément de destructions faites par les Indiens eux-mêmes. Du côté espagnol, c'est compliqué parce qu'en même temps, on est au XVIe siècle, donc ce qui est ancien, c'est l'authentique. Et un codex préhispanique, c'est antiguo, antique, ancien, vrai, authentique. Il y a ce culte, on est dans le monde de la Renaissance, où qui n'utilise pas encore nos critères de faux et de vrai, et qui, pour lequel, ce qui est plus c'est vieux, plus ça a une réalité fondamentale pour le présent. Et donc, les missionnaires sont très partagés, d'autant plus qu'ils partent d'une idée très simple, apparemment très clair, c'est-à-dire que dans le monde indien, il y a à la fois des choses à éliminer, des choses à conserver. Et ça, on oublie beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments qu'il faut recycler et conserver. Il y a donc tout un travail de sélection dans leur tête à faire entre ce qui est interdit, ce qui doit impitoyablement être extirpé, mais ce qu'il faut à tout prix conserver. Et cette limite entre l'interdit et le licite, l'autorisé, elle est extrêmement difficile à marquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est païen et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comme s'il existait dans le monde indigène des zones neutres qui ne seraient pas religieuses, qui seraient profanes, qui seraient sécularisées. Évidemment, ça n'existe pas. Cette limite, cette frontière arbitraire est introduite par les moines. Or, les moines ne savent pas exactement où elles passent, parce que finalement, ils connaissent assez peu de choses du monde préhispanique. Et les Indiens ne comprennent pas du tout pourquoi on veut, par exemple, les obliger à distinguer entre la fabula, en espagnol, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le mythe, et la réalité. Pour eux, cette distinction qui est encore fondamentale pour nous tous aujourd'hui n'a strictement aucun sens. Alors, ils sont obligés de la faire, mais selon quelles règles et quels critères? Et c'est là, justement, où l'incertitude des moines et l'incertitude des Indiens eux-mêmes laissent cette marge de manœuvre ouverte. Et c'est aussi pour nous, historiens d'aujourd'hui ou simplement lecteurs, une façon de mieux mesurer le caractère très relatif de nos catégories. Est-ce que le mythe, ce n'est pas l'histoire aussi? Et on sait que même dans l'Europe du XVIe siècle, le mythe est un élément fondamental. Les mythes d'origine des royautés françaises sont fondamentaux et que toute la partie mythique, même du passé espagnol, par exemple, c'est le début de l'histoire de l'Espagne. Donc, on est dans devant ces catégories et devant surtout cette porosité des frontières, cette extrême difficulté à savoir exactement ce qui est païen, ce qui ne l'est pas, et puis cette idée étrange et extrêmement moderne, c'est qu'il existerait dans des sociétés, des zones parfaitement non contaminées par le religieux, si on traduit idolâtre par religieux.
Oui, ce qui amène cet exercice magnifique que vous faites dans la deuxième partie du livre, qui est une lecture comparée d'un côté du récit historique des populations indiennes telles qu'on le rencontre chez Motolinia, et que quand ils sortent un processus de civilisation, on passe des Chichimecs qui sont des barbares sauvages à la frontière de l'humanité pour entrer avec le peuple de Colua et après les Mexicas dans des peuples civilisés. Et puis vous comparez dans une lecture cette trajectoire narrative à travers l'écrit à ces trois codex que j'ai mentionné pour commencer et qui racontent la même histoire, dans un sens, le même passé, et qui montrent à la fois des différences, puisqu'à les déchiffrer, à les interpréter, il n'y a pas ce passage de la barbarie à la civilisation d'un peuple à un autre. Il y a, vous insistez beaucoup sur le fait que l'idée d'une civilisation, si on peut employer le terme, il est lié à la fusion, au métissage entre différents peuples, dont aucun n'était radicalement barbare. Donc, à la fois la même histoire, avec des modalités différentes, mais comme ces codex sont déjà peints à l'époque de la christianisation et de la colonisation, vous montrez aussi qu'avec prudence ou des autocensures, ils ne donnent presque aucune place à ce qui était le répertoire des sacrifices, le répertoire des lieux de culte, le répertoire des rituels d'idolâtrie pourchassés par les Espagnols. Mais votre première réponse à cette question, les Indiens écrivent-ils l'histoire, est une réponse qui, tout en marquant des nuances dans le contenu de cette histoire, finalement, établit la possibilité d'un parallèle. Et en tension avec cette première perspective, et en appui sur tout votre travail depuis que j'évoquais pour commencer, vous montrez qu'il y a là peut-être une tentation perverse et un piège qui est tendu, parce que ça serait faire bon marché des différences radicales qui sont celles que nous employons, nous, et que les franciscains employaient, eux, au XVIe siècle, et qui sont celles, comme vous venez de le rappeler, le sacré et le profane, le passé et le présent, la causalité qui mène d'un état à un autre, la frontière entre le naturel et le surnaturel, toutes ces catégories absentes dans la culture des Indiens. Alors, ce qui amène à deux questions. La première, comment est-ce qu'on confronte cette difficulté, c'est-à-dire que de pouvoir, avec nos propres catégories qui étaient celles de Motolinia, décrire, parler de quelque chose qui lui est radicalement irréductible. Et deuxième question, c'est que ce qui complique encore la thématique, comme vous l'avez rappelé, c'est que ces Indiens qu'on peut saisir dans ces codex, ils sont déjà peu ou prou dans un monde qui n'est plus celui du pré-hispanique. Ils connaissent, et vous montrez, vous l'avez rappelé, tous ne lisent peut-être pas Aristote, mais tous ceux qui commanditent ces peintures ont une connaissance du passé. Il y a même un très beau texte où quelqu'un se lamente que les Indiens aient un accès au savoir sur l'histoire des propres Européens, et que ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, comment stabiliser, finalement, je dirais, théoriquement, conceptuellement, cette question qui est celle de penser comment eux, nos frères franciscains, ont écrit ou pensé cette histoire des Indiens, et puis vous ou nous, Comment est-ce que l'on peut arriver à tenir cette tension entre qu'est-ce qui rend finalement possible le fait de pouvoir saisir dans nos concepts ce que nous posons comme leur étant absolument irréductible?
Alors je ne suis pas sûr, enfin ça ce sont mes limites personnelles, que je puisse saisir, qu'on puisse vraiment saisir par nos concepts cette autre réalité. C'est pour ça que souvent dans le livre je suis revenu sur, à travers François Julien, sur les travaux sur la Chine. C'est-à-dire pour essayer de penser le fait que nos concepts qui aujourd'hui sont universels ne l'ont pas toujours été. Et je pense que ça, c'est fondamental. Le temps et l'espace, par exemple, et que dans des mondes comme le monde de la Chine, et là, François Julien fait le même, et face au même défi, puisqu'il donne des mots en mots, dans des termes occidentaux, par exemple, il donne beaucoup d'importance à le concept de procès, pour parler des mêmes choses. Donc, c'est plutôt le fait d'arriver à la limite et de le faire sentir. La plupart de mes collègues qui travaillent sur ces codex, ils voient un mélange d'histoire, de géographie et se posent rarement ce type de questions. La difficulté qui est encore plus forte que celle que vous décrivez, c'est que dans ces années 1540, on se trouve devant des élites indiennes qui à la fois lisent des livres d'histoire sur l'Espagne. C'est-à-dire que pour eux, ils sont devant cet objet qui est le livre, qui est couvert de signes et qui renvoie à quelque chose d'autre qui s'est passé ailleurs dans une autre époque. Et en même temps, les mêmes ont entre les mains des codex qui sont un fragment de cette réalité sacrée, qui sont le lien qu'ils ont avec leur mémoire, mais avec le monde divin. C'est-à-dire qu'il y a, ce sont des problèmes, ce sont, les sémiotiques sont totalement différentes. Le rapport à la réalité n'est pas le même. Et ça, j'avoue mes limites, je ne suis pas capable d'étudier ça, au moins je peux simplement mettre le doigt dessus. On est devant des générations qui fonctionnent avec des systèmes, des approches du réel qui sont complètement incommensurables, mais qui existent dans les mêmes personnes. Donc ça ne veut pas dire qu'on est face à des univers qui sont parfaitement intraduisibles, séparés par des abîmes. On a, et le cas se répète énormément dans ces élites, des gens qui fonctionnent avec des modes d'expression, avec des catégories qui sont complètement, complètement différentes. C'est un moment exceptionnel, puisque ça va s'effacer dans la génération suivante. Entrer de l'autre côté du miroir, je ne le peux pas. Et je pense qu'on ne le peut pas parce que vous parliez tout à l'heure des codex préhispaniques. Il y en a, évidemment. Il y en a très peu, mais il y en a. Mais on peut, je veux dire, si on les lit comme des livres, évidemment, nous les réduisons à nos catégories et nous n'arrivons pas à rentrer parce que nous n'avons pas de mode d'emploi. Nous n'avons aucun guide possible. Quand je suis face à la pensée chinoise, je peux, avec Anna Cheng, avec Julien et d'autres, rentrer, avoir une idée, toucher un peu, même à travers des traductions. Là, définitivement, nous n'avons pas cette possibilité. Et quand nous avons des interlocuteurs indigènes, c'est ceux dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois capables de demander un titre de noblesse à Madrid, de négocier et même de préparer un voyage en Espagne, et qui conservent pratiquement intact le même moyen d'expression, parce que justement avec cette idée qu'un codex à l'ancienne, même s'il est moderne, c'est une source de pouvoir et de légitimité aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un rapport au sacré, une autre forme de sémiotique, disons, mais il y a aussi une question politique. Et cette question politique, elle est fondamentale. Quand on parle de ces rapports entre ces Toltecs et Chichimecs, les Chichimecs étaient pour nous des barbares, les Toltecs, ce sont les gens des villes et civilisés. En fait, ces Indiens reviennent sans arrêt sur le fait qu'ils étaient civilisés. Et on ne peut pas décontextualiser cette affirmation, on ne peut pas la sortir de ces années 40 où le grand débat dans le monde ibérique, en Espagne, c'est savoir si les Indiens sont des gens barbares ou non. Eux répondent systématiquement non, Nous sommes civilisés, nous l'avons été avant l'arrivée des Espagnols et avant l'arrivée du christianisme. Et c'est ce que Las Casas ensuite va reprendre. C'est ces documents, justement, auxquels il va donner une diffusion gigantesque, puisque ces codex, évidemment, ne seront jamais reproduits. Ils seront des itinéraires parfois clandestins, parfois très secrets. Par contre, ce que disent ces Indiens en disant non, non, non. La civilisation, ça, on connaît les villes, on avait ça depuis plusieurs siècles avant votre arrivée. Ça va être ensuite le matériau que va utiliser Las Casas dans sa lutte pour défendre les populations indigènes.
Oui, je crois qu'on va terminer cette émission, enfin cette conversation avec Las Casas. Mais avant, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que votre manière d'écrire et votre manière de penser rendent compte de cette tension. Il ne s'agit pas de la résoudre, personne ne peut la résoudre entre ce constat d'un irréductible et le fait même que ce constat d'un irréductible se donne dans les catégories qui lui sont opposées. Votre manière d'écrire, parce que très souvent, vous reprenez l'explication en disant « cette explication est trop occidentale », comme s'il y avait quelque chose qui échappe. Il faut donner cette explication, mais elle n'est pas suffisante. Et il y a un autre côté du miroir où vous revenez très. Il y avait des formules comme parfois qui sonnent comme Lucien Febvre. N'imposons pas nos catégories sur les Indiens et en particulier sur la conception du temps, puisqu'il n'est pas ni linéaire, ni avec des causalités qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et donc, ça, c'est la manière d'écrire. Et la manière de penser, évidemment, elle est de situer le livre, même implicitement, dans une grande tension. S'il a cette possibilité de dire que le radicalement hétérogène ou différents existent, c'est peut-être parce qu'existent quelques invariants anthropologiques, dans un sens, qui seraient le fondement des comparaisons que vous faites. Là, vous venez d'en faire avec la Chine. Plusieurs fois viennent la comparaison. Alors, ça peut être une manière rhétorique de donner à comprendre à un lecteur qui, encore plus que vous qui travaillez depuis 40 ans sur cette différence, n'est pas préparé à saisir, mais c'est aussi l'idée que peut-être ces différences radicalement construites comme historiques et qui expliquent l'intérêt des fusions, des métissages, des rencontres, peut renvoyer quelque part à quelque chose qui serait dans un ordre de l'universel. Et donc, dans ce sens-là, ce n'est plus l'universel des histoires ecclésiastiques, mais c'est une autre forme d'universel. En tout cas, je pense que le livre, comme tous ceux que vous avez écrits auparavant, pose cette question. Nous la laissons ouverte pour les lecteurs. Et pourquoi avoir consacré vers la troisième grande partie du livre à Las Casas, dont on sait qu'il a été la cible des attaques de Motolinia dans une lettre de 1555 qui le dénonce comme étant évidemment quelqu'un qui n'a pas la connaissance ou l'expérience de Motolinia, et puis peut-être qui renvoie à quelque chose de très intéressant et qui est le conflit entre les Franciscains et les dominicains sur ce que doit être la christianisation. Alors, bon, pourquoi avoir mis en parallèle avec votre cher Motolinia, le petit pauvre Las Casas?
Pour une raison aussi de généalogie locale, puisque bon, l'enquête démarre avec Motolinia. Motolinia interroge ses élites de Texcoco. Ces élites, à la fois, produisent une série d'informations, mais en même temps fabrique les codex dont on vient de parler. Et ces codex, Motolinia va les avoir entre les mains, et Las Casas aussi. Et donc, il y a un processus. Ce ne sont pas des expériences isolées. Il y a une espèce de suite, de séquence qui fait que l'enquête de Motolinia, construction, fabrication de ces codex qui racontent le passé, utilisation par Las Casas de toutes ces informations, celles de Motolinia et celles des codex, et que Las Casas va mettre ces informations au service de la cause qu'il défend et qui est très loin, qui serait celle d'un historien engagé ou d'un historien militant, qui est la défense des Indiens. Et donc, on passe là à une étape supérieure, si vous voulez, de l'historicisation, dans la mesure où Las Casas pense toutes les sociétés indigènes. Et là, c'est encore un effet européen, je veux dire, de créer cet objet qui n'a jamais existé, qui sont les Indiens des Amériques.
il faut juste signaler que la plupart des lecteurs ou de ceux qui nous écoutent connaissent de Las Casas la très brève relation de la destruction des Indes, c'est-à-dire un texte bref publié en 1552 et qui est la description sera traduite comme les cruautés et tyrannies des Espagnols. Mais ce dont vous parlez ici, ce sont, sans rupture avec cette brevissima relation, les deux grands ouvrages de Las Casas, l'histoire des Indes et puis l'histoire apologétique sommaire, et qui sont des textes immenses qui n'ont jamais été imprimés au cours du XVIe siècle. La première ne sera qu'à la fin du XIXe, et la seconde, la Apologetica Historia, seulement au début du XXe. Et pour autant, pour vous, que ces deux textes, même s'ils n'ont pas eu cette circulation dans leur forme imprimée telle qu'on les rencontrerait aujourd'hui dans les éditions qui se sont succédées après ces premières éditions, non seulement sont intéressants parce qu'ils donnent à voir la conscience de quelqu'un qui veut écrire l'histoire de la totalité des mondes, pour le moins des mondes atlantiques, et vous signalez l'importance de la lecture de Las Casas des chroniqueurs portugais, et en même temps, même s'ils n'ont pas eu cette édition imprimée, ils ont eu un effet, ils ont eu une puissance dans leur temps, et pas simplement pour un objet d'analyse historique, a posteriori, comme on pourrait le faire dans le cadre de l'histoire intellectuelle, en quelque sorte. Donc pour vous, c'est ça l'importance de Las Casas, c'est son contenu de pensée, et c'est le fait que c'est un texte, même non publié, qui a eu une importance en son temps.
Las Casas a une importance qui dépasse de beaucoup celle du défenseur des Indiens, dont on a beaucoup parlé dans les 20 ou dans les 30 dernières années. D'une part parce que ce petit texte qu'on a, qui est très célèbre, La destruction des Indes, et qui a énormément circulé au XVIe siècle, finalement a des clés. Et ces clés sont dans ces grands ouvrages. Une des clés qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir que finalement l'expérience du Nouveau Monde, la mise en histoire du Nouveau Monde, dans le cas de Las Casas, obligeait à faire le lien avec l'Afrique. Et ça, encore aujourd'hui, très peu de nos collègues font le lien entre l'histoire de l'Amérique et l'histoire de l'Afrique, je veux dire. Cette idée que finalement, comprendre la destruction des sociétés indigènes, la colonisation, la conquête de l'Amérique, obligeait à revenir sur le monde portugais, sur l'Atlantique portugais, sur la mise en esclavage des populations noires, et donc de créer ce que j'appelle une histoire globale, c'est-à-dire de, non pas de juxtaposer l'histoire des chapitres des histoires de continents, mais de dire, attention, ce qui se passe en Amérique, c'est connecté, comme on dirait aujourd'hui, c'est totalement lié à ce qui s'est passé au XVe siècle et ce qui continue de se passer en Afrique. Et donc ça, c'est un premier point qui m'a beaucoup intéressé. Deuxième point, c'est Las Casas, à la différence de Motolinia, beaucoup plus un humaniste. Or, parler d'histoire, humanisme, renaissance au XVIe siècle, c'est parler de l'Antiquité. Et donc, Las Casas construit des antiguidades, c'est-à-dire des antiquités américaines. Et cette histoire apologétique sommaire est entièrement construite sur non seulement une vision du monde, des mondes indigènes préhispaniques de l'Amérique sous forme donc une antiquité américaine, mais est le même ouvrage décrit par le menu toute l'antiquité méditerranéenne, gréco-romaine, gauloise, espagnole. C'est-à-dire qu'il y a une revendication double. D'une part, il existe une antiquité américaine, et puis si on la compare à l'antiquité, à notre antiquité méditerranéenne, eh bien, elle l'emporte sur cette antiquité. Donc il y a une puissance extraordinaire, puisque Las Casas va non seulement mettre ensemble des centaines d'informations sur les mondes indiens depuis la Floride jusqu'au Brésil, jusqu'à l'Argentine et le Chili, mais en même temps, il va reprendre toute une série d'informations sur les mondes antiques et construire cette espèce de binôme où deux antiquités se font face et où finalement c'est l'antiquité américaine qui l'emporte sur l'autre antiquité. Donc ça, c'est un changement de vitesse considérable. Motolinia parlait des Indiens du Mexique, Las Casas parle de toute tous les mondes indigènes. Et quand il écrit son l'autre grand ouvrage, qui évidemment n'a pas été imprimé, mais a énormément circulé, l'Historia de las Indias, d'ailleurs ce qu'on sait par exemple de Christophe Colomb se trouve dans l'Historia de las Indias, il parle des Indes, c'est-à-dire c'est aussi, il prend comme objet les Amériques. Et là, quand on pense au type d'histoire qui se faisait à l'époque en Europe, on est devant une autre échelle. C'est incommensurable. Un des plus grands historiens italiens du XVIe siècle est sans doute Guicciardini, auquel j'ai évoqué à plusieurs reprises. Il écrit une Storia d'Italia et dans un chapitre, il parle des grandes découvertes. Mais pour parler de la connessita, du lien qui existe entre la crise de Venise et les grandes découvertes. L'objet qu'invente Las Casas, c'est les Indes. C'est l'ensemble des sociétés indigènes sur tout le continent américain, tout au moins tout ce qu'on en connaissait au milieu du XVIe siècle. Donc j'ai voulu insister sur ce changement d'échelle et parce que le livre est aussi une réflexion sur l'histoire globale, sur cette initiative que prend Las Casas, en faisant aussi quelque chose que très souvent nos collègues spécialistes des mondes espagnols ne font pas, c'est-à-dire Las Casas connaît parfaitement les historiens portugais. Oui. C'est une leçon pour nous aujourd'hui d'histoire fabuleuse quand on voit que Las Casas, en plus de ses combats, est quelqu'un capable d'aller chercher des manuscrits, de lire les bons auteurs, de savoir ce qu'il faut, de réunir les informations sur un domaine qui lui est apparemment étranger, qui est les côtes de l'Afrique occidentale et les îles de l'Atlantique Sud.
Et pour le relier à notre conversation précédente, à notre échange précédent, évidemment, le soubassement de cet élargissement de la vision historique, c'est le postulat d'une unité du genre humain, ce qui permet à la fois des comparaisons, et comme ce que vous le disiez, la supériorité des sociétés indiennes sur les sociétés de l'Antiquité occidentale. C'est ce qui permet aussi, évidemment, une nouvelle modalité de la pensée du rapport entre présent et passé, ou passé et présent, et qui est la préfiguration. C'est-à-dire les événements, c'est plus la lecture typologique comme on l'a vu chez Montolinia, c'est les événements peuvent être la préfiguration d'une autre réalité. La destruction des Indes préfigure la destruction de l'Espagne, et dans les traductions, la destruction des Indes peut préfigurer la destruction des Provinces-Unies, la destruction de l'Angleterre. Donc il y a là un modèle. On va terminer parce que évidemment le temps a passé. Le dernier élément de votre réflexion, c'est sur finalement la tension qui existe entre les possibilités d'une ce que vous appelez une écriture métisse de l'histoire, qui, dans un contexte particulier de la fin du XVIe siècle au Mexique, a laissé des traces, et en même temps la conclusion plus finale, qui est celle par laquelle nous avons commencé, l'hégémonie européenne sur l'écriture des passés, quels qu'en soient les lieux. Alors cette dernière tension, vous la mettez en place avec l'analyse très fine, très subtile, d'un certain nombre d'écrivains métis, ou de métis écrivains, qui vont proposer, avec dans un cadre qui leur est imposé, mais quelquefois aussi en le déplaçant, une écriture de l'histoire de leur propre terre, qui est dans ce cas-là le Mexique ou les villes du Mexique, mais en même temps que cette écriture métisse, elle est déjà basculée complètement du côté des codes occidentaux, et que ce n'est pas forcément dans l'écriture de ce passé qu'il faudrait trouver, ce que vous avez étudié si souvent, des résistances, des appropriations, des maintiens de quelque chose qui est détruit sous une forme qui est plus fragmentaire, incohérente. Et donc, du coup, cette fin du XVIe siècle, elle ouvre à cette double idée, la colonisation des mémoires et la mise en histoire sur le mode européen de l'histoire du monde.
Alors c'est évidemment, ce sont toutes ces dimensions qui m'ont intéressé, avec aussi le fait que quand par exemple un de ces écrivains qui s'appelle Juan Bautista Pomar écrit l'histoire de Texcoco, qui est une aujourd'hui qui se trouve dans la banlieue de Mexico, qui était une seigneurie très puissante alliée de Mexico Tenochtitlan, alliée des Aztèques, il ne fait pas de la micro-histoire. Il ne fait pas non plus de l'histoire régionale. Et c'est cet exercice qui fait partie de ce métissage et qui m'a beaucoup séduit, c'est-à-dire il pense Texcoco dans un cadre qui est un cadre qui est celui de la monarchie catholique. Il ne pense pas Texcoco dans le cadre mexicain ni latino-américain, mais par rapport aux valeurs, par rapport aux ambitions de ce monde qui existe en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, qui est la réunion des deux empires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écrire une histoire locale dans un cadre qui est un cadre global? Et ça, c'est la caractéristique de tous ces historiens indiens, mais métissés. Je pense à un cas que je n'ai pas présenté dans le livre, mais un personnage qui est un indien qui s'appelle Chimalpaïn, qui vit à Mekameka, qui écrit en langue nahuatl, et dont d'ailleurs une grande partie des écrits se trouve à la Bibliothèque nationale, et raconte le passé de cette noblesse locale, fait l'histoire du monde préhispanique. Mais en même temps, il lit Sainte-Thérèse d'Avila. Et en même temps, il va consacrer des chapitres à l'arrivée des Japonais dans la ville de Mexico. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, rendre compte du local dans un cadre qui ne pouvait pas être national, puisqu'on n'est pas encore ni au XVIIIe ni au XIXe siècle, mais qui est déjà un cadre planétaire. Comment quand Pomar, dont on a parlé, il écrit, il fait une description de Texcoco, mais il le fait pour répondre à une demande qui vient de Madrid. Ce n'est pas une façon de s'affirmer par rapport à la capitale Mexico ou par rapport au Pérou. Il répond à des impulsions et il construit son histoire par rapport à des valeurs qui sont celles d'un empire.
Vous montrez bien d'ailleurs que cette... peut-être comme lecteur de Las Casas, où il y a une volonté de réhabilitation d'un passé préhispanique, mais qui ne peut se faire dans ce contexte-là. De Pomar, on est dans les années 1580, qui ne peut se faire que par l'adoption des catégories européennes. Et les passages très passionnants vous consacrez à la manière d'aborder les sacrifices humains dans cette nouvelle perspective. C'est-à-dire qu'il faut à la fois en limiter l'importance, les attribuer à un seul peuple, considérer que finalement la croyance aux idoles était peut-être beaucoup plus détachée et sceptique que ne le donneraient les premiers missionnaires lorsqu'ils les pourchassent, on insiste sur ce thème que vous avez évoqué, peut-être d'un monothéisme original. Alors donc, il y a une réécriture, finalement, de ce passé, plus ou moins pour la faire coïncider avec ce qu'en attendent les colons et les chrétiens. Et en même temps, c'est la manière de réhabiliter ce passé et de dénoncer, finalement, des éléments du présent. Dans cette tension. Alors, je pense que... Alors, dernière question, pourquoi vous terminez avec Herrera, le chroniqueur des Indes, de la monarchie très catholique, et dont on a pu découvrir qu'il avait été un des premiers lecteurs, sinon le premier lecteur de Don Quichotte, puisque c'est à lui qu'on avait demandé l'approbation du texte de Cervantes. Mais bon, c'est pas dans ce sens-là que vous commentez Herrera, mais comme en quelque sorte un point d'aboutissement de l'histoire que vous nous avez rapportée et en même temps qui ouvre à une forme qui va devenir dominante, hégémonique et contre laquelle peut-être votre livre est une manière de lutter.
Alors, Herrera est un personnage fascinant parce qu'évidemment, il a repris tous ces matériaux dont on vient de parler. Y compris Pomar, ses relations auxquelles il avait directement accès. Mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit des histoires pratiquement de tous les pays de la planète. C'est-à-dire qu'il y a derrière Herrera et derrière l'Empire une volonté de mettre en histoire tous les passés, qui sont à la fois des passés soumis à la couronne espagnole, mais aussi qui peuvent être l'Écosse, l'Angleterre, la France. Il y a un désir d'historicisation qui finalement ne se limite plus qu'à la planète tout entière. Et c'est pour ça que ce personnage, on ne peut pas évidemment le dissocier des projets de cet empire philippin. Rappelons que c'est Philippe II qui fait publier la Bible polyglotte, qui a l'idée qu'il faut faire l'inventaire du monde. Et l'histoire, c'est une des dimensions de cet inventaire du monde, parce que, et ça c'est une idée de l'administration de Philippe II, de son entourage et du roi lui-même, le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est ça la grande modernité de l'Espagne, à mon avis, de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, l'idée que la connaissance, c'est le pouvoir, et qu'un pouvoir mondial, monarca del mundo, le monarque du monde, comme on disait, a besoin justement d'être le maître à la fois de toute l'information sur les ressources de la planète, mais aussi de toutes les cartes. Et c'est l'Atlas d'Ortelius qui est dédié à Philippe II, mais aussi de tous les passés. Et être ce pouvoir sur les passés, c'est être l'officine ou l'historien qui écrit ses passés. C'est la construction de ses passés. Et là, on emploie souvent en anglais aujourd'hui cette expression de « world maker », ceux qui fabriquent le monde. Et je pense qu'il y a ça derrière Herrera. Il est plus très connu aujourd'hui et généralement, il a toujours été vu comme quelqu'un qui faisait de la compilation, qui recopiait. Sauf que si on le prend sous une autre perspective, Herrera est élu partout en Europe. Il fait partie de ces historiens qui dominaient le marché et l'information et qui ont eu, à travers les traductions, même chez l'Hollandais, même chez les ennemis, une influence considérable. Évidemment, ce n'est plus l'histoire ensuite, l'Espagne tout au moins, qui va faire l'histoire du monde. Mais c'est là, c'est la première fois que l'Europe prend en main cette tâche qu'elle a continuée pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle. J'ai toujours été frappé, et je suppose que vous aussi, quand nous sommes chez nos amis brésiliens ou argentins ou en Amérique latine, il est très rare de voir des Argentins, des Brésiliens faire l'histoire de l'Europe ou l'histoire du monde. C'est toujours nous qui apportons l'histoire, qui racontons comment explorer le passé et qui nous chargeons de faire des histoires mondiales. Il y a quelque chose qui fait partie de notre identité européenne. Et je suis à la fois très critique, mais en même temps, c'est notre héritage. Je veux dire, nous ne savons pas... Nous, historiens, c'est comme ça que nous pouvons travailler. Nous n'avons rien à faire d'autre. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui veut dénoncer cette colonisation insupportable des mémoires et des imaginaires. C'est un fait. Mais par ailleurs, c'est cette forme d'explication, d'interprétation du réel qui a permis à Las Casas ou à Pomar de se défendre. C'est-à-dire, ce sont des instruments qu'on peut retourner contre l'expéditeur. Et de toute façon, c'est notre patrimoine à nous d'Européens. C'est pour ça que j'ai aussi voulu un peu circuler parmi les historiens européens du XVIe siècle.
Bien, merci, Serge Brzezinski. Je rappelle donc que notre conversation s'est nourrie de votre dernier ouvrage publié chez Fayard. Le titre, La machine à remonter le temps, quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde.